Non. Quelques mots d'introduction tant que tu prépares.
Oui, oui, ok, ça va.
Alors, bonjour à tous. D'abord, je voudrais m'excuser d'en arriver à quelques minutes de retard. On s'est perdu dans Montreuil malgré le GPS. Il nous a dit de prendre un sens unique à un moment, donc on ne l'a pas fait. Il nous a dit de traverser la place du marché où il y avait le marché. Donc voilà, on s'est un petit peu perdu. On aurait dû aussi avoir un peu plus de marge. Donc désolé pour ce petit retard. Je suis heureux donc d'être ici avec mon épouse Talia, avec notre petite Livia qui a 2 ans et une sœur a très gentiment accepté de me garder pendant le message. Heureux de vous adresser les salutations de notre église, l'église baptiste de la rue de Sèvres, donc, dans le 7e arrondissement de Paris. Et en fait, mon contact avec cette église, c'est que je connais un petit peu Timothée, et qui il y a quelques mois m'a proposé de venir prêcher ici. J'ai accepté avec joie de pouvoir passer ce temps avec vous ce matin. Je continue à meubler pendant qu'il m'installe. Voilà, il y a pas mal de documents sur cette clé. Je suis heureux de voir aussi Madame Pégon, que je connais un petit peu, mais je ne savais pas que vous étiez dans cette église. Alors en fait, vous pouvez déjà ouvrir vos Bibles, j'aurais dû le dire déjà, dans le second livre des Rois, au chapitre 4, au verset 38 à 44. Donc 2 Rois, chapitre 4. Alors je vais projeter le texte aussi dans quelques instants, mais encore si vous l'avez sous les yeux pour l'ensemble du message, c'est pas mal aussi. Voilà. Nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions du privilège qui est le nôtre de pouvoir nous mettre à l'écoute de ta parole. Cette parole qui nous parle, qui nous instruit, qui nous transforme peu à peu. Et ce n'est pas les mots que moi je peux dire ou que nous pouvons dire qui transforment et qui vivifient, c'est bien ta parole. Alors donne-moi Seigneur d'être fidèle dans la manière de l'exposer ce matin. Et donne-nous d'être attentif à ce que tu veux nous dire. Au nom de Jésus. Amen. Alors je lirai le texte un tout petit peu plus tard, dans quelques minutes, mais quelques mots d'introduction tout d'abord. Oui, alors. Qui m'avait demandé de vous présenter simplement. Donc, je suis l'un des pasteurs de l'église de la rue de Sèvres. Voilà, je pense que ça suffira. Dans notre église, justement, l'église baptiste de la rue de Sèvres, nous avons eu à cœur de placer l'année 2015 sous le thème de l'intercession, de la prière pour notre ville, notre métropole parisienne. Montreuil est complètement inclus là-dedans. Or, le verset de l'année que nous avons choisi, Néhémie 2, 18, nous dit ceci: « Levons-nous et mettons-nous au travail. » Dans le contexte de Néhémie, il s'agit de reconstruire la muraille de Jérusalem qui a été détruite suite à l'invasion babylonienne. Notre ville, notre métropole est en ruine, elle aussi. Alors ce ne sont pas des ruines matérielles, ce sont des ruines spirituelles. Et je crois que Dieu nous invite, nous appelle à participer à la reconstruction dans la prière et dans l'action de cette vie. Alors c'est vrai, de ce côté-ci de l'éternité, en attendant le jour où Dieu définitivement mettra fin au mal et au péché et établira un monde nouveau, il y aura encore du mal, de la souffrance, il y aura encore de l'injustice, la Bible est claire à ce sujet. Ça n'empêche pas que nous sommes appelés à donner dès aujourd'hui un aperçu de ce monde à venir, ce que Jésus appelle le royaume de Dieu. Et c'est pour ça que nous sommes appelés à être des agents de reconstruction spirituelle. Alors c'est un défi qui semble complètement, bien sûr, au-delà de nos forces. même en considérant l'ensemble des disciples de Jésus à Paris, on peut se dire, mais reconstruire spirituellement la ville de Paris, la métropole parisienne, ça paraît complètement, complètement au-dessus de ce que nous pourrions faire. Mais si nos ressources à nous sont dérisoires, nous savons que les ressources du Seigneur sont illimitées. Et c'est dans ces ressources-là qu'il nous appelle à puiser. Après les attentats du mois de janvier, la population de notre pays s'est mobilisée en grande partie pour dire non à la violence, non au terrorisme, et c'était important de le faire, je crois. Mais on a bien vu en même temps qu'au-delà de cette unité superficielle, autour d'une sorte de plus petit dénominateur commun, eh bien la désespérance spirituelle n'a pas bougé d'un pouce. Et on voit bien que notre société n'a pas d'espérance réelle à offrir. Nous sommes en plein désert spirituel. Et la question que je voudrais poser ce matin est la suivante. Qu'est-ce que Dieu attend de nous, puisqu'il nous a placés dans ce désert spirituel? Et comment est-ce que Dieu compte agir dans ce désert? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Et question directement liée, comment est-ce qu'il va agir? Parce que même s'il nous appelle à agir, c'est lui qui par nous est à l'œuvre. Alors le texte qu'on va lire dans un instant, au premier abord, semble n'avoir rien à voir avec ce que je viens de dire, rien à dire à ce sujet, tellement il paraît éloigné de nous, de notre contexte, même assez anecdotique. Mais je pense qu'un regard plus attentif peut nous aider à voir certaines similitudes avec notre contexte, même si ça peut paraître surprenant, et surtout nous rappeler qui est le Dieu en qui nous croyons. Et donc je vais vous inviter à lire ce texte, 2 Rois chapitre 4, donc verset 38 à 44, je lis dans la Nouvelle Bible Second. Élisée revint au Gilgal. Or il y avait une famine dans le pays. Alors que les prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur « Prépare la grande marmite et fais cuire une soupe pour les prophètes. » L'un d'eux sortit dans la campagne pour ramasser des légumes. Il trouva une vigne sauvage et il y ramassa des courgettes sauvages, plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans la marmite de soupe, car on ne savait pas ce que c'était. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé de la soupe, ils s'écrièrent « Il y a la mort dans la marmite, homme de Dieu !» Ils ne pouvaient pas en manger. Élisée dit « Prenez de la farine. » Il en jeta dans la marmite et dit « Serre ces gens et qu'ils mangent. » Et il n'y avait plus rien de mauvais dans la marmite. Un homme arriva de Baal Shalisha. Il apportait du pain de la première moisson à l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et du blé nouveau dans son sac. Élisée dit « Donne-le à ces gens et qu'ils mangent. » Son auxiliaire répondit « Comment pourrais-je en donner à 100 personnes ?» Mais Élisée dit « Donne à ces gens et qu'ils mangent, car ainsi parle le Seigneur, on mangera et on en aura de reste. » Il mit alors les pains devant eux, ils mangèrent et en eurent de reste, selon la parole du Seigneur. Alors, ce que je vous suggère, ce que je vous soumets, c'est que ces deux petits récits, un petit peu énigmatiques, ils nous donnent en fait des signes de la présence et de l'action de Dieu dans un désert spirituel. Des signes de la présence et de l'action de Dieu dans un désert spirituel. C'est pour ça que je donnais le titre « Flash de grâce », je vous expliquerai un petit peu plus. Ensuite, pardon, j'en ai mis la deuxième diapo. Heureusement, vous avez ouvert vos billets. Premièrement, je voudrais suggérer qu'on voit dans ce texte que Dieu ôte le goût de mort. Et puis deuxièmement, il multiplie le pain de vie. Dieu ôte le goût de mort tout d'abord. Alors le premier des deux épisodes, première histoire, c'est sans doute la plus bizarre des deux. Et on peut se demander pourquoi notre narrateur se sent obligé de nous raconter une histoire de soupe. Il est quand même question d'une soupe. Mais il y a quelques mots au verset 38 qui nous signalent tout de suite qu'il n'y a rien de léger dans ce texte, contrairement à ce qu'on pourrait penser. On pourrait se dire, l'auteur des Rois, il ne savait vraiment pas quoi dire à ce moment-là, il nous a raconté l'histoire d'une soupe, etc. Non, c'est beaucoup plus sérieux que ça. Il y a une petite phrase qu'on peut manquer qui nous dit « Il y avait une famine dans le pays ». Alors je suppose que l'immense majorité, sinon la totalité d'entre nous, n'avons jamais connu la famine. Je me trompe peut-être. Vraisemblablement. En tout cas, en France, presque personne ne connaît la famine. Et du coup, on peut passer un peu outre cette petite phrase, il y avait une famine dans le pays, et nous focaliser sur l'histoire de la soupe ensuite. Mais il faut bien comprendre que le narrateur nous parle ici d'une situation où tout le monde manquait du nécessaire. Où chacun cherchait à se nourrir au jour le jour, or il n'y avait pas assez de nourriture pour tout le monde. Et donc, c'est une situation dans laquelle l'unique chose qui préoccupe préoccupe les gens au jour le jour, c'est de trouver à manger, pour avoir ne serait-ce qu'un repas, un léger repas pendant la journée. Et tout le reste, et toutes ces choses qui nous préoccupent typiquement dans nos journées, nos semaines, on peut supposer que ça avait à peu près disparu de l'écran radar, si on ose dire. Trouver à manger, voilà quelle était la priorité de chacun pour chaque jour. Et quand on tient compte de ce contexte, on prend conscience qu'une soupe, ça peut faire la différence entre la vie et la mort. Ou au moins, apporter un répit de la faim qui tenaille et de l'anxiété qui va avec. Donc déjà, on voit que cet épisode n'est peut-être pas si anecdotique que cela. Mais la famine en Israël, au temps d'Élisée, n'était pas seulement matérielle, elle était aussi spirituelle. Quand on lit les deux livres des rois, on voit le portrait d'une nation d'Israël qui, dans sa grande majorité, s'est détournée de Dieu pour adorer des idoles en tout genre. Comme ça se faisait partout ailleurs, tous les pays avoisinants adoraient des idoles. Et même les responsables du peuple, en particulier les rois, qui avaient une vocation non seulement politique mais aussi spirituelle, on le voit lorsque Dieu conclut une alliance avec David, c'est clair qu'il attend du roi que ce roi soit un responsable spirituel aussi pour son peuple. Les rois étaient souvent les premiers, en fait, à se détourner de Dieu et à emporter en quelque sorte le peuple dans cette révolte. Ils ont même institutionnalisé le culte des idoles. Donc, une impiété généralisée qui peut nous rappeler le monde dans lequel nous vivons. Dans ce contexte désert matériel et spirituel, il y avait tout de même une minorité d'Israélites, environ 7000 personnes d'après le premier livre des rois, qui restent fidèles au Dieu d'Israël. Et parmi cette petite minorité de fidèles, il y avait un groupe d'une centaine de prophètes qui appelaient le peuple à revenir à son Dieu. Avant tout, sans doute, des enseignants itinérants qui rappelaient au peuple qu'il fallait revenir à Dieu. Du temps d'Élie, on a déjà rencontré cette communauté quand on lit le premier livre des rois. Ici, il en est question à nouveau, et c'est Élisée qui est le successeur d'Élie, qui est à sa tête. Donc ce texte nous présente un petit groupe de personnes, une minorité, qui, dans un contexte de désert spirituel, d'impiété généralisée, persiste à croire que Dieu a des projets pour son peuple, malgré le malheur, malgré l'idolâtrie. Et j'espère que ça peut nous permettre de nous identifier un peu à eux, une minorité qui dit « oui, nous croyons ». Il y a un Dieu qui a des projets pour nous, même si la grande majorité de nos contemporains ne le croient pas ou ne le croient plus. Ce qui est frappant, c'est de voir que ces prophètes, ils ne sont pas épargnés par la famine. Eux aussi, ils doivent chercher à manger chez eux. Eux aussi, ils sont marqués par la pénurie. On entend parfois des faux enseignements qui nous disent que voilà, si on est chrétien, on est béni, et ça veut dire qu'on va toujours avoir de quoi des biens matériels, et même des biens matériels en abondance, etc. Ici, on voit que les prophètes, eux aussi, ils font face à cette difficulté. Et l'un d'eux en est réduit à ramasser n'importe quoi, la première chose qu'il trouve, en l'occurrence, des coloquins sauvages. C'est un fruit ou un légume, hein. Je ne sais pas s'il y a un expert, mais je ne sais pas si techniquement ce sont des fruits, mais c'est plutôt des légumes. En tout cas, il ramasse ça et il décide d'en faire une soupe. Très mauvaise idée. Et dès que les hommes goûtent la soupe, nous dit le texte, il s'écrie « Il y a la mort dans la marmite, homme de Dieu ». Verset 40. Il y a la mort dans la marmite. Alors on peut hésiter sur le sens exact de cette exclamation. Est-ce que c'est une manière simplement de dire que la soupe, elle est immangeable ? Elle a un goût insupportable. Et il y a la mort dans la marmite. Alors je me suis demandé, en lisant le texte, si peut-être qu'on a mal compris que s'agissait en fait de la marmite, je ne sais pas si certains connaissent cette délicate spécialité anglaise. Parce que moi, j'ai eu à peu près la même réaction que dans le texte la seule fois que j'ai essayé la marmite. Il y a la mort dans la marmite. Mais non, l'hébreu est formel. Zen Tegon pourra me confirmer. Ce n'est pas de la marmite, mais c'est bien d'une marmite qu'il est question. Alors, c'était une blague, bien sûr. Mais plaisanterie à part, il apparaît que les coloquins sauvages ont un effet nocif sur la santé. Alors j'ai été voir dans Wikipédia, qui nous apprend que la chair légère, spongieuse, de couleur jaune-orangée de la coloquinte est très amère et toxique. Et on apprend par ailleurs que la pulpe séchée du fruit récolté avant complète maturité est un laxatif violent. Enfin, Une étude faite sur des rats a montré que la coloquinte provoquait de l'hypoglycémie. J'ai fait mes petites recherches. Donc les prophètes n'exagéraient pas en disant qu'il y avait la mort dans la marmite. Et il est possible qu'ils ne parlaient pas seulement du goût, mais de son effet toxique. Alors bien sûr, cette histoire peut nous faire sourire. Mais mettons-nous à la place de ces hommes. On vous apporte un repas chaud, alors que vous n'avez rien mangé ou presque de la journée, mais ça s'avère immangeable et même toxique. Et donc le désespoir n'est pas loin. Et honnêtement, dans cette situation-là, quand vous avez attendu toute la journée ce repas et qu'on vous apporte quelque chose qui est immangeable et dangereux, je pense que ça peut être la goutte d'eau qui fait déborder. Le désespoir n'est pas loin. Mais la joie revient, et le texte nous l'explique, nous le décrit en toute simplicité. La joie revient lorsqu'Élisée intervient par un geste banal qui change tout. Manifestement guidé par Dieu, il jette de la farine dans la soupe, et son goût amer et toxique disparaît. Pourquoi est-ce que cet épisode a trouvé sa place dans la vie? Je pense que c'est parce qu'il montre la grâce que Dieu a manifestée à petite échelle dans une situation de désespoir. Une grâce qui préfigure une grâce à bien plus grande échelle. On lit, si on regarde les trois premiers chapitres, et même le début du chapitre 4 des deux rois, on voit que par le ministère d'Élisée, Dieu montre sa bonté. Élisée est en quelque sorte le médiateur de la bonté de Dieu. Dieu utilise Élisée pour délivrer mystérieusement les troupes israélites qui s'étaient mises dans une situation très fâcheuse, le chapitre 3. Puis il intervient en faveur d'une pauvre veuve dans une situation de grande précarité, où elle était très endettée. On voit ça au début du chapitre 4. Et puis il intervient en faveur d'une riche propriétaire qui a des moyens, mais qui est frappée par un drame personnel, le drame de l'infertilité. Chapitre 4, verset 8 à 37. Ici, Dieu va utiliser Élisée pour ôter l'amertume et rétablir ses bénédictions. Il ôte le goût de mort pour rétablir la saveur. Et je crois que l'auteur du Livre des Rois sait très bien ce qu'il fait lorsqu'il sélectionne ces différentes histoires, ces récits. Son propos, ce n'est pas simplement de nous raconter des histoires intéressantes, ou même simplement de nous montrer des miracles que Dieu a accomplis. Je pense qu'il veut nous faire comprendre que dans un contexte marqué par la détresse, à la fois sociale et spirituelle, l'infidélité et l'idolâtrie du peuple, Dieu est toujours. Et c'est comme si Dieu donnait, entre guillemets, des flashs de grâce dans un désert spirituel qui était Israël au temps des rois. Ici, Dieu n'agit pas par des grands miracles spectaculaires et visibles par tous. Il choisit d'agir par une petite grâce discrète et de faire du bien à ceux qui ont placé leur espérance en lui. Or, en ramenant la saveur là où il y avait de l'amertume, le Seigneur donne un signe du rétablissement qu'il accordera plus tard à son peuple. D'abord en mettant fin à la famine. Donc, je pense qu'il y a déjà une sorte d'annonce que voilà, Dieu il reste là, il n'a pas oublié son peuple, il va mettre fin à cette famine. Mais plus largement en accordant diverses délivrances à Israël pendant son histoire. Et puis, dans un horizon plus vaste et plus lointain, en intervenant en faveur de l'humanité entière par la venue de son Fils Jésus-Christ, sa mort à la place des pécheurs, sa vie triomphante à sa résurrection. Par rapport à Élisée et à ses contemporains, nous sommes des privilégiés, parce que nous savons que Dieu a tenu ses promesses. Vous savez, dans la deuxième lettre aux Corinthiens, qui a déjà été lue un peu plus tôt, l'apôtre Paul nous dit que toutes les promesses de Dieu sont oui en Jésus. En Jésus-Christ, il y a l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Dieu a envoyé dans le monde un sauveur qui est venu combler d'abondance des hommes et des femmes qui mouraient de faim spirituelle. Dieu a tenu cette promesse. Alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Comment est-ce que nous pouvons intervenir dans le désert spirituel qui nous entoure et rétablir la saveur là où il y a de l'amertume? La question se pose pour chaque église, elle se pose aussi pour les croyants à titre individuel. Alors Dieu nous invite à annoncer l'évangile, bien sûr, mais aussi à le vivre, à le montrer, en étant des hommes et des femmes qui, face à cette famine spirituelle qui nous entoure et qui nous affecte aussi souvent nous-mêmes, seront les représentants, en quelque sorte, de la saveur que Dieu ramène là où il y a de l'amertume, des porteurs d'espérance là où, autour de nous, on voit surtout du fatalisme. Et je crois que nous pouvons nous poser cette question. Quelles sont les manières dont Dieu voudrait m'utiliser, à petite échelle, discrètement peut-être, pour apporter l'espérance dans des situations d'amertume autour de moi, au travail, dans les études, dans le voisinage, dans ma famille, dans mes relations avec ceux qui m'entourent, qu'ils soient chrétiens ou non. Comment est-ce que je peux puiser dans la bonté et la générosité de Dieu à mon égard pour faire du bien, pour être celui qui ramènera l'espoir et même la joie, là où l'indifférence, l'apathie, les larmes nous entourent. Et il suffit de passer une journée à Paris pour voir que, effectivement, l'anxiété, la déception, le malheur sont tout autour de nous. Alors parfois, on en voit des exemples flagrants, des personnes sans domicile fixe, des personnes qui souffrent de situations très difficiles. Mais d'un point de vue général, quelle est l'espérance de ceux et celles qui nous entourent? Parfois, je passe très régulièrement par la gare Saint-Lazare à Paris, et parfois je me fais cette réflexion. Je me dis que Jésus a sans doute ce même regard sur ces foules qui s'amassent là que celui qu'il avait sur les foules galiléennes. Il en fut ému parce qu'ils étaient comme des moutons qui n'ont pas de berger. Marc 6, 34. Nos contemporains ont terriblement besoin de Dieu. Ils ont terriblement besoin du berger qu'il a envoyé dans le monde, Jésus-Christ. Nous avons aussi terriblement besoin de lui. Mais il s'est fait connaître à nous. Dieu a répondu à ce besoin. Et si nous ne le faisons pas connaître, si nous ne faisons pas goûter de sa saveur autour de nous, qui le fera? Comme le dira Jésus à ses disciples dans son sermon sur la montagne, une petite phrase bien connue, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi le salera-t-on ?» Matthieu 5, 13. Autrement dit, si le sel perd sa saveur, il ne reste plus de sel pour saler le sel. C'est le travail du sel de saler, et si le sel n'a plus de saveur, il n'y a plus rien qui peut donner de la saveur. Alors lorsqu'on utilise cette expression, le sel de la terre, parfois on a tendance à imaginer de grandes actions sur le plan missionnaire, humanitaire ou international. Et bien sûr, c'est important, il faut qu'on garde une vision globale de l'Église et des besoins dans le monde. Mais il faut bien prendre conscience qu'on n'arrivera pas à grand-chose, à grande échelle, si on ne commence pas autour de nous à petite échelle. Et donc j'invite chacun d'entre nous à réfléchir à quelques situations personnelles autour de nous, où nous pourrions être témoins tout simplement de la bonté de Dieu, et manifester concrètement cette bonté par notre générosité, notre attention, notre hospitalité, notre bonté, la consolation qu'on peut apporter face à un mal. Ça sera peut-être par des gestes tout simples. On voit dans le texte, qu'est-ce qu'il fait, Élisée? Il jette simplement de la farine dans la soupe, c'est pas compliqué. C'est Dieu bien sûr qui est à l'œuvre. Et justement, c'est Dieu qui est à l'œuvre, et ses attitudes de bonté, de grâce, on ne va pas les trouver en nous-mêmes. Ce n'est pas par nos propres forces qu'on y arrivera. Il va falloir les puiser par la prière dans les ressources illimitées de Dieu. En prenant conscience de ce qu'il nous a donné, en lui demandant son aide pour transmettre cette bonté dans la vie de ceux qui nous entourent. Dieu est un Dieu généreux qui aime faire le bien en réponse à nos prières et qui aime donner ce qui est bon en réponse à nos prières. Et nous devons le croire si nous voulons vivre et transmettre cette espérance. Et je crois que c'est le sens du second récit. Dieu multiplie le pain de vie. C'est toujours dans le même contexte de famine que cette deuxième histoire nous est racontée, versets 42 à 44. Alors là encore, pour nous, si quelqu'un nous apporte du pain, c'est sympa, c'est agréable. Une bonne baguette, c'est toujours plaisir. Mais lorsqu'il y a une famine, ça prend une autre dimension, c'est évitable. Alors un homme, nous dit le texte, apporte à Élisée du pain de la première moisson. Alors là, il y a un petit quelque chose qu'on ne remarque pas, je pense, spontanément, mais qui est assez intéressant. C'est que selon la loi de Moïse, on apportait le pain de la première moisson au prêtre, pas à un prophète comme Élisée. Mais dans le contexte du Livre des Rois, il semble que l'institution sacerdotale, les prêtres, cette institution est tellement corrompue, les prêtres sont tellement corrompus, la grande majorité d'entre eux n'adorent même plus l'Éternel, ça a le mérite d'être clair, ils sont devenus des prêtres de Baal ou d'autres idoles. Mais en apportant à Élisée ce pain, c'est comme si l'homme reconnaît qu'en fait, dans ce contexte-là, le vrai représentant de Dieu, ce n'est pas ses prêtres corrompus, mais c'est lui, le prophète Élisée. Seulement voilà, le pain ne suffit pas à nourrir 100 personnes. Et donc l'assistant d'Élisée va expliquer ce problème tout simple à son maître, mais Élisée va transmettre la parole de Dieu, on mangera et on aura le reste, verset 43. Donc le pain est distribué, chacun est rassasié, il y a même des restes période de famine, c'est inconcevable. Il n'y a jamais de reste quand il y a la famine. On va continuer à manger parce qu'on a tellement faim. Là, il y a même des restes. Dieu aime faire plus que ce que nous demandons. Sa grâce surabonde, l'écrira même l'apôtre Paul bien plus tard. Alors quand on lit cet épisode, pas besoin d'avoir un doctorat en théologie pour voir que ce récit préfigure bien des siècles à l'avance un célèbre épisode du ministère de Jésus, même deux célèbres épisodes, puisque Jésus a multiplié les pains deux fois, première fois dans la région juive de la Galilée, seconde fois dans une région vraisemblablement non juive, de l'autre côté du lac. Alors les chiffres sont sans comparaison. Jésus a moins de pain qu'Élisée au départ, mais il va nourrir une foule de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, nous précise Matthieu dans son évangile, donc peut-être de 10 000 personnes, au moins. Dans le deuxième épisode, il y a 4000 hommes, et peut-être là encore, deux fois plus en réalité. Donc dimension sans comparaison, mais à part ça, les ressemblances sont frappantes. Il n'y avait pas de famine généralisée. Il n'y avait pas de famine généralisée à l'époque de Jésus, mais la foule qui est venue l'écouter n'avait pas de quoi manger, ce jour-là en tout cas. Et de même que l'assistant d'Élisée vient le voir en lui exposant ce problème, il n'y a pas assez de pain, et bien on voit que les disciples de Jésus, c'est la même chose, ils disent à Jésus, mais on n'aura jamais assez pour nourrir cette foule. De même qu'Élisée va demander à son assistant de nourrir la foule, de distribuer le pain, Jésus va demander à ses disciples de distribuer le pain des poissons. C'est frappant tous ces parallèles. Et de la même manière, sans que le miracle soit vraiment décrit en détail, on a le résultat. Chacun a été nourri et il y a même des restes. On sait que les miracles de Jésus, on sait parce que la Bible nous dit, que les miracles de Jésus étaient des signes de l'œuvre de Dieu, des signes de l'autorité de Jésus. Après avoir multiplié le pain, qu'est-ce que Jésus va dire? Il se présente comme le pain de vie. Celui qui peut nourrir spirituellement, celui qui peut rétablir la vie chez l'homme qui est déjà sous l'emprise de la mort. La foule nourrie par Jésus, elle était affamée spirituellement avant tout. Elle était affamée physiquement, mais elle était avant tout affamée spirituellement. Et nos contemporains, nos prochains autour de nous, ils sont affamés spirituellement. Et nous aussi, souvent, nous sommes affamés spirituellement, mais nous avons trouvé de quoi manger. Parce que là où Jésus est proclamé, là où sa parole est enseignée, non seulement la saveur revient là où il y avait de l'amertume, mais la vie revient là où la mort semblait avoir le dernier mot. Et donc cette petite multiplication du pain en deux rois, c'est un autre flash de grâce que Dieu a donné à ceux qui s'attendaient à lui, ceux qui plaçaient encore leur confiance en lui dans ce contexte d'indifférence et d'idolâtrie. Mais comme on l'a vu plus tôt, par ces flashs de grâce, Dieu ne se contente pas de faire du bien à ceux qui lui font déjà confiance. Il promet aussi une grâce à grande échelle. Et j'ai dit tout à l'heure que nous sommes des privilégiés par rapport à Élisée et ses contemporains. Parce que nous vivons de l'autre côté de l'accomplissement de cette promesse, de la venue et l'œuvre de Jésus, son incarnation, son enseignement, sa mort à notre place à la croix, sa résurrection que nous allons fêter la semaine prochaine. Mais nous attendons encore l'accomplissement final, ce que les prophètes appelaient le jour de l'éternel, ce jour où Dieu mettra fin au monde déchiré dans lequel nous vivons. Il renouvellera toute chose, nous dit la parole, pour donner lieu à une nouvelle création, un monde nouveau. C'est ça notre espérance. C'est un monde nouveau. Ce n'est pas seulement une existence spirituelle en présence de Jésus, mais c'est la résurrection et un monde nouveau. Il y a un texte que j'aime bien citer chez le prophète Ésaïe, que je trouve magnifique, qui annonce cette nouvelle ère que nous attendons encore. Elle a déjà été inaugurée par Jésus-Christ, mais nous l'attendons encore. Ésaïe 25, verset 6 à 8. Le Seigneur des armées fera pour tous les peuples dans cette montagne un banquet de mets succulents, un banquet de vin vieux. Dans cette montagne, il anéantira le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantira la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes de tous les visages. Il fera disparaître de toute la terre le déshonneur de son peuple. C'est le Seigneur qui parle. Nous sommes des privilégiés par rapport à Élisée et ses amis. Nous avons vu que Dieu a déjà posé l'acte inaugural de ce monde nouveau par la mort et la résurrection de Jésus. Mais nous attendons encore. Nous sommes encore dans l'attente. Nous vivons encore dans un désert spirituel. Si Dieu transforme la vie de tous ceux et celles qui viennent à lui, il le fait. Il n'a pas encore transformé le monde. Il n'a pas encore non plus transformé nos corps, comme il le fera au bout de la vie, dans ce jour-là. Cette transformation finale du monde, elle arrivera en ce jour que nous attendons encore. Alors, quels sont les flashs de grâce que Dieu nous donne, nous, pour nous aider à tenir? D'abord, il y a cette assurance magnifique que le message de Jésus-Christ, l'Évangile, il est puissant et il change les vies. Et donc, on n'a pas besoin d'essayer de trouver la bonne formule spirituelle pour changer nos vies ou pour changer la vie des autres. Ce que nous avons à faire, c'est laisser la place à Jésus. Témoigner fidèlement de Jésus, de sa parole puissante. Laisser son enseignement balayer peu à peu l'amertume et apaiser notre faim spirituelle. À chaque fois que l'Évangile est annoncé, à chaque fois qu'il est partagé et qu'il est vécu dans nos vies, eh bien nous pouvons avoir confiance que Dieu agit, il agira pour chasser l'amertume et pour apaiser la faim des hommes. Maintenant, c'est très difficile de nourrir les autres si on est soi-même affamé. Et c'est pourquoi Jésus nous invite à manger nous-mêmes du pain de vie, encore et encore et encore, à nous nourrir nous-mêmes de ses paroles. Si nous accordons une priorité dans nos vies à la lecture et à la méditation de la parole, il n'y a aucun doute. Nous verrons que cette parole, elle change la vie. Alors j'ai bien dit la méditation, certains, je sais, ont parfois du mal à lire, s'ils savent lire, mais ils ont parfois une difficulté à lire. Je pense que c'est important de lire la parole, mais on peut aussi l'écouter. Il y a d'autres moyens, et en particulier aujourd'hui, de se nourrir de cette parole. Il y a un petit livre que je voudrais recommander à ce sujet. Voilà, la recommandation purement personnelle, mais de Dominique Anger, « La méditation biblique à l'ère numérique ». Une expérience avec la vie. Un petit livre qui coûte 5 euros, je crois, et qui est vraiment petit et qui est très... très utile pour nous aider à revenir à cette priorité de la méditation biblique. Je crains que souvent, en nous abritant derrière l'excuse, compréhensible, hein, mais de nos plannings chargés, nous ne faisions que ramasser les miettes qui sont tombées à terre, plutôt que de recevoir les mains ouvertes le pain que Jésus nous donne. Maintenant, un autre flash de grâce, et je vais terminer avec ça, sur lequel je vais attirer notre attention, c'est ce repas miniature que nous allons prendre, je crois, tout à l'heure, fait de pain et de vin, que les chrétiens prennent régulièrement. Ce n'est pas pour rien que Jésus a choisi ce symbole du pain et du vin. Pour nous, c'est aussi une manière concrète de nous rappeler que nous avons besoin de lui, de manière tout aussi vitale et plus encore que la nourriture et la boisson. Et en prenant ce repas, nous fixons déjà les regards sur cette abondance à venir, ce grand repas dont il est question dans Ésaïe 25. C'est un peu comme si on en prenait l'apéritif. On fixe les regards sur ce repas à venir. Et sans nous en rendre compte, à chaque fois que nous prenons la scène, peut-être qu'on s'en rend compte, tant mieux si on s'en rend compte, à chaque fois que nous prenons la scène, eh bien nous vivons un flash de grâce. Nous nous rappelons que Jésus a tout donné jusqu'à sa vie pour nous délivrer de notre désert spirituel. Alors dans ce désert, que ce soit le désert de notre vie, de notre pays, notre monde, mais aussi parfois le désert de notre vie, de le ressentir comme ça, ou peut-être certains sont encore dans ce désert et n'ont pas encore fait la rencontre de Jésus. Eh bien, accrochons-nous à ces signes que Dieu est à l'œuvre. Il prépare son grand repas, mais il nous envoie pour inviter chacun. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous remercions pour ta grâce, qui vient apporter la vie là où règne la mort, qui vient apporter l'espérance là où règne le désespoir, qui vient apporter l'éternité là où tout est éphémère. Nous avons besoin, Seigneur, que tu nous fasses revenir encore et encore à cette grâce qui non seulement est venue nous rencontrer dans notre misère spirituelle, qui nous a transformés, mais qui nous mobilise pour être messagers de cette manière. Seigneur, nous croyons que tu as un peuple nombreux dans cette ville. Tu as des hommes et des femmes que tu veux attirer à toi. Et Seigneur, tu nous envoies pour le faire. Mais tu veux que nous aussi nous puissions nous nourrir jour après jour de cette grâce, grandir dans cette grâce et vivre pour pouvoir vivre dès maintenant quelque chose de ce que nous vivons un jour dans sa plénitude, dans ce monde nouveau que tu promets pour nous. Alors Seigneur, donne-nous de vivre par la foi, de garder ses yeux fixés sur toi et de goûter combien tu es bon. Au nom de Jésus. Amen. Amen.